Avant d'aller dormir, je vais vous raconter le loup et l'agneau. Oui,
oui, oui, oui. CO2, mon amour.
Attends, je suis forcée. La mère fou, qu'est-ce que c'est?
Je mets mes bottes. Et loin, c'est là, je vais faire. Et qu'est-ce qui arriva après?
Avec Denis Chessou. Sur France Inter.
On devrait raconter les fables animalières de cette façon-là. Essayez, parfois, évidemment, ça peut fonctionner. En tout cas, ça va plutôt pas mal dans une émission qui rapproche les hommes en nous rapprochant de la nature. Je vous souhaite le meilleur de CO2 Mon Amour, donc consacré cette fois-ci, vous l'avez compris, à un animal qui s'appelle le lynx. À la technique, il y a Rémi Sissiaga, Camille Blanès et Xavier Pestugia réalisent l'émission. Ce sont les nuages poussés par le vent qui ont décidé. Sans eau, pas de plantes, pas d'animaux, pas d'enfants qui crient. C'est plus la Terre, mais une autre planète sans vie. En été, on plaindra l'eau. Nous serons des mendiants de l'eau, les paumes ouvertes vers le ciel. L'eau qui fait et fera le yo-yo entre le pas assez et le trop. Alors c'est pas de la magie, hein, c'est pas une punition, non, c'est juste de la physique. Car notre soif d'énergie fossile sans fin a déréglé le climat. Même si en d'autres temps, sans hominidés, les fleuves ont débordé ou hurlent le caillou sec. Aujourd'hui, demain, on est entré dans le temps du grand balancier de l'eau, du trop, du pas assez. Alors bien sûr, zone inondable, urbanisation, mais vous comprenez, on a eu le permis de construire nos maisons et nos souvenirs. Et puis c'est là qu'on vit. Barque, bottes, albums, photos engloutis, vie et murs lézardés, larmes salées, virus même pas noyé. Mais solidarité. La Garonne a toujours connu les excès. Comme toutes les rivières, elle fait son métier d'eau. Alors on préférait parler de Marmande, de la Réole, des autres villes touchées pour les tomates, les fêtes, les paysages, le savoir-vivre du Lot-et-Garonne. Et justement, le Lot me donne la main en amont de Marmande et c'est tout le Quercy qui descend dans mon lit. Mon lit qui est pas assez grand. Alors, parfois, je le quitte. Michel Serre me connaissait, je lui ai appris à nager. Il parlait de moi comme d'un être vivant. Je vais dire adieu à Garonne, là où sa grand-mère avait tenu une guinguette. Les cerfs me grattaient, me draguaient pour apaiser mes eaux qui montaient. Ils m'appelaient même parfois la garce. Je suis une fille du midi, je déborde, je m'emporte, je le sais, mais ils m'aimaient d'amour. Le ciel remplit mes flancs, je suis une porteuse d'eau, de trop ou de pas assez. 10 mètres 20, la tenait au garrot. Que dirait Mac Mahon qui réprima la commune mais pas la Garonne en 1875? Que d'eau, et il ajouterait le GIEC avait raison. L'affaire du siècle a gagné au tribunal, c'est l'heure. Résultat de 50 glorieuses et réchauffeuses, aujourd'hui, il y a baril en la demeure. Alors l'alliance du réchauffement, des océans et de la terrible Justine, tempête chère au marquis de Sade qui donne la fessée au climat. Justine a fabriqué un lac immense, un delta, une rizière du sud-ouest. Seuls les canards se réjouissent. Leur zone de loisir a pris une ampleur inégalée. Mais pour les autres mammifères, bêtes et humains, il va falloir survivre et pomper. « Je suis désolé, dit la Garonne, c'est le trop ou le pas assez. Je fais juste mon métier d'eau. » Alors au menu, vous l'avez compris, donc c'est un lynx, ou même peut-être plusieurs lynx, lynx en hiver avec Didier Pépin. Et puis juste avant de partir, bah ouais, avant d'aller marcher, histoire d'enfiler nos moufles, hein, vous allez comprendre pourquoi, dans la musique.
All the time until I
Je l'ai découvert comme vous, là, donc c'était choisi par Thierry Dupin de la playlist et ça s'appelle donc Baccar. Ah, ces moustaches nous attendent. Eh ben les chats, vous pouvez aussi écouter cette émission.
Voilà, on va quitter le domaine Homo sapiens, là. On va quitter la route goudronnée sur laquelle on marche.
Oui, enfin, il y a quand même quasiment 20 cm de neige. Hein,
oui, d'accord, mais bon, voilà. Elle n'est pas loin quand même.
Hein. Elle n'est pas loin.
Voilà. Et puis là, on va emprunter des chemins qui sont aujourd'hui malheureusement un peu labourés par les forestiers. Mais ces chemins nous emmènent sur le domaine du lynx. Tu vois la crête qu'on a à notre gauche, là, c'est typiquement les milieux que les lynx apprécient. Le lynx est un animal qui aime dominer. Et quand il parcourt son territoire, c'est en général le long de ses crêtes rocheuses, boisées. Le plaisir du naturaliste, c'est de se poser comme ça, un petit peu en retrait de cette crête, et puis de le voir passer. Alors l'idéal, c'est même d'être placé idéalement pour avoir la crête sur fond de ciel, de manière à ce que quand la nuit tombe, il n'y a plus que la lumière du ciel, et tu as sa silhouette qui passe. Ça, c'est... Je vous le souhaite.
Les petits chaperons rouges, vous pouvez sortir tranquille, apporter un petit pot de beurre bio à votre grand-mère en maison de retraite. Vous n'intéresserez pas le lynx du jour. Le lynx et l'agneau, eh ben, c'est pas une fable que De Funès va pouvoir effectivement nous raconter. Regardez ces pinceaux dressés sur les oreilles. Pattes fines et taillées pour le saut, le sprint, une queue courte, un capuchon noir, des favoris noirs et blancs, façon Jules Ferry, des pattes larges, voilà. Crocs et griffes incorporées. Ah oui, ça c'est important. Didier Pépin, vous l'avez entendu, professeur de SVT, a écrit La forêt du lynx aux éditions de la Salamandre et c'est surtout un amoureux de cette bête. Alors on n'a pas changé la voix du lynx, hein, il n'est pas flouté non plus sur le site de CO2, mais en revanche, je ne vous dirai pas précisément où nous étions, car il a ses passages d'habitude. Alors on entre dans la forêt avec Didier Pépin, au début de la nuit, entre chien et lynx, entre Doubs et Jura.
Là, en général, les gens s'aventurent pas, ne serait-ce que de peur de se perdre. La forêt est restée, encore aujourd'hui, hein, un peu dans le même mystère qu'au Moyen-Âge. Hein. Hein, au Moyen-Âge, les bandits... se réfugier en forêt parce qu'ils savaient qu'ils allaient y être tranquilles, mais aujourd'hui c'est presque un peu ça, les naturalistes se réfugient en forêt parce qu'on y est tranquille quoi. Ouais,
voilà. On est dans le département, on va dire qu'on est dans le Haut-Doubs, bon, et on n'en dira pas plus avec vous, donc Didier Pépin, mais notre lynx, c'est un animal qui a été exterminé, qui il y a eu différentes causes à la fin du 19e siècle en France.
Ce qu'on sait de par les écrits et l'histoire de notre massif, c'est que à cette époque, la forêt ne ressemblait pas à ce qu'elle était aujourd'hui. Hein, une grosse partie de la forêt était déboisée pour notamment pour le chauffage et puis pour récupérer des terres agricoles pour pâturer, etc. Donc il y a eu un recul énorme de la forêt à cette époque-là.
On a essarté, comme on disait.
Ah ben c'est clair. Ouais. Et donc du coup, en même temps. on a supprimé les grands ongulés qui vivaient dans ces forêts, et par là même, forcément, on a également écarté les prédateurs qui s'en nourrissaient. Or, c'est certainement pas la seule raison, mais en tout cas, je pense que c'est une des raisons qui ont fait disparaître le lynx.
C'est quand même différent par rapport au loup, où là, on a souhaité vraiment le flinguer et l'éradiquer, qui fait qu'autour des années 1920, il n'y en avait plus en France.
Oui, alors, mais le lynx n'a pas du tout la même histoire, les mêmes légendes. Le lynx était simplement un animal méconnu. Le loup était connu, tout le monde connaissait le loup.
C'était dans la mythologie, dans les histoires pour enfants, dans les symboles.
C'est ça, alors que le lynx, non. Hein, le lynx qu'on appelait le loup cervier. D'ailleurs, on voit très bien dans les illustrations de l'époque que cet animal n'était pas connu, parce que les représentations du lynx sont absolument pas fidèles à la réalité. Les lynx sont absolument hideux, ils ne ressemblent à rien. Ils ont toujours un air très agressif. D'ailleurs, tous les dessins sont des dessins où l'animal est très agressif. Pourquoi ? Parce que les seuls moments où on a rencontré cet animal, c'est quand on l'avait capturé.
Alors ce lynx, à la fin du 19e siècle, il n'y en avait plus. Et après, c'était une réintroduction par nos amis suisses qui sont juste derrière. Donc on est dans les années 70 et après, donc ils passent en France.
C'est ça. En fait, sur les lynx français, il y a du lynx dans les trois massifs. Il y a des lynx dans le Jura, il y a du lynx dans les Vosges et il y a du lynx dans les Alpes. Ouais. Et en fait, les trois histoires sont un peu différentes. Le lynx jurassien est issu des réintroductions, comme vous venez de le dire, dans les années 70. Sur le secteur du Creux-du-Vent, je crois. Les premiers lynx ont été introduits là-bas. Donc les lynx se sont reproduits, ils ont traversé la frontière et ont aujourd'hui colonisé l'ensemble du massif du Jura. De ce Jura, ils sont passés dans les Alpes, ce qui est relativement récent. Le massif de la Chartreuse, les Bornes, le massif des Bauges, je crois.
Les Bauges.
Voilà. Quant aux Vosges, là, c'est complètement différent, puisque là, il y a eu une tentative de réintroduction dans les années 80. Où, je crois que tout le monde s'accorde à dire que ça s'est plutôt mal passé, pour un tas de raisons. Et la population des lynx a grimpé, les lynx se sont produits, donc on allait un petit peu, comme dans le Jura, à une installation, une création d'une population des Vosges, sauf, je crois, que les chasseurs en ont décidé autrement.
C'est un magnifique lynx adulte de 20 kilos qui a été retrouvé le 29 décembre. Les promeneurs ont aperçu le corps de la bête, a priori morte depuis plusieurs semaines, près de l'ancienne décharge de Massevaux.
Il était présumé accidenté de la route et il présentait une plaie extériorisée du côté droit. Et en réalité, au cours de l'autopsie, on a pu mettre en évidence une deuxième plaie qui est beaucoup plus parlante et qui correspond au point d'entrée d'une balle.
Pour avoir tiré sur une espèce protégée, l'auteur du coup de feu risque jusqu'à 2 mois de prison ferme et 10 000 euros d'amende. Un procès verbal contre X a d'ailleurs été rédigé par l'Office national de la chasse. Dans les années 80, 2 autres lynx avaient été abattus. Les responsables n'ont depuis jamais été retrouvés.
Alors moi je suis un lynx pour me sustenter. C'est quoi mon... Alors le régime alimentaire, on a compris qu'il était davantage carnivore que végétarien, mais c'est quoi sa quantité à lui ?
Ce qui est clair, c'est que c'est un prédateur, donc de toute façon, il faut du vivant.
Ouais.
Il n'est pas charognard. Hein. Alors donc, il faut du vivant, et tant qu'à faire, eh bien, plus c'est gros, plus c'est intéressant, quoi, parce qu'il va se nourrir plus longtemps dessus. Donc les proies favorites sont les deux ongulés, chevreuil, chamois, en tout cas pour ce qui est du Jura. Et alors en termes de quantité, ben, quand un lynx a réussi à attraper un chevreuil, qu'il attrape d'ailleurs toujours par surprise et jamais à la poursuite, hein, c'est toujours à l'affût qu'il chasse, c'est presque le chevreuil qui vient se mettre dans ses pattes, hein, c'est quasiment ça, il bondit et il l'étouffe. En gros, si l'animal n'est pas dérangé par promeneurs, etc., ou que d'autres animaux viennent se nourrir sur la proie, eh bien sa proie, il va la ronger quasiment pendant une semaine.
Alors que l'on comprenne bien, Didier Pépin, parce que en général, ces animaux-là, c'est plus ou moins l'ennemi du chasseur. Je ne fais pas de généralité, mais enfin, en général, ça ne cohabite pas toujours très très bien. Le chasseur, ici, sur le même territoire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va prélever et qu'est-ce que prélève donc le lynx ?
Un lynx, quand il a abattu un chevreuil, il va se nourrir dessus pendant une semaine. Mais ça ne veut pas dire qu'il mange un chevreuil par semaine. Parce qu'un lynx, ça se nourrit aussi de renards, ça se nourrit de chats quand il se rapproche des maisons, ou de chats forestiers, chats sauvages, d'oiseaux. Ça nous est arrivé de trouver une gélinotte des bois qui avait été attrapée. Bon, alors, c'est pas bien pour la gélinotte, hein, mais bon, cette gélinotte, elle s'est fait... Mais ça veut dire qu'il mange aussi des oiseaux, donc il mange autre chose. Mais bon, en admettant que ce lynx soit spécialisé sur le chevreuil et qu'il tue un lynx par semaine, ça veut dire qu'au bout de l'année, il aura tué 52 chevreuil.
Oui.
Voilà.
C'est même pendant les vacances.
Voilà, sur son territoire. Alors, le territoire d'un lynx, c'est quoi? C'est environ 100 km². Et bien, sur la même surface, les chasseurs vont, au plan de chasse, tuer entre 500 et 600 chevreuils.
D'accord, donc c'est moins de 10%.
Donc, en gros, ça représente 10%. Voilà. Donc là, l'idée, c'est que là où les chasseurs voient un concurrent, je pense que là, il y aurait peut-être moyen un peu de partager, tout simplement. Et puis, comme de toute façon, je crois que la chasse aujourd'hui se revendique comme de la régulation des populations de grands. Bon, et bien, le lynx fait la même chose, quoi. Donc, après tout, chacun son boulot, quoi.
Ouais, voilà. Et sans cartouche.
Et sans cartouche.
Ouais. Ça vous rendez pas compte, mais avec le micro à la main, si vous voulez, alors je suis un peu en danseuse, quoi. C'est-à-dire que je suis un peu comme un funambule, là. On va passer, on enjambe un tronc, hop. Bon, tout ça pour aller voir quoi? Hein? Un gros chat? Mais oui. Vous direz, ben voilà, mieux de rester à la maison, on avait partout des chats. Non, le nôtre, il est magique. Il est magique, c'est à la fois un, c'est-à-dire un prince de la montagne et aussi un fantôme.
En fait, les lynx sont des animaux qui ne sont pas comme les autres mammifères. Le lynx, je souhaite de le voir ce soir. Mais vous verrez que c'est pas un animal craintif, c'est un animal curieux. Et souvent, c'est le lynx qui vient voir. C'est pas moi qui m'en approche. Moi, je me suis simplement assis au pied d'un arbre, et lui vient voir l'intrus. Il vient jauger l'intrus. Un autre critère aussi, qui est vraiment typique du lynx, c'est que là où chevreuil, chamois, renard, sanglier, toutes ces espèces mammifères de notre faune, là où ces animaux-là fuient l'homme seulement à son odeur, eh bien, lui ne fuit pas. Lui, il va vous promener sur un chemin, il est en train de dormir au pied d'un arbre, mais s'il est suffisamment loin que vous ne l'avez pas repéré, ben, il va gentiment vous laisser passer. Ouais. Alors que s'il avait fui, eh bien, son mouvement, vous l'auriez détecté. Ben, une des raisons pour laquelle il est si difficile à voir, à mon avis, c'est ça. C'est qu'en fait, le lynx a certainement vu très souvent des gens qui, eux, ne l'ont pas vu.
Waouh ! Alors là, on arrive sur la crête.
Oh, voilà, là, c'est...
Oh là là.
C'est ce qu'on appelle la hêtraie sapinière,
ouais,
ici, qui est principalement composée d'épicéas. Mais il y a quand même quelques sapins, il y a quelques beaux sapins. Et puis le hêtre en feuillu, évidemment.
Il peut écouter France Inter à combien de kilomètres, là, si quelqu'un a son poste ouvert? Il a une très bonne ouïe, en revanche.
Au niveau de l'ouïe, oui, ouais. Bah, je pense que ces animaux qui sont nocturnes, d'ailleurs qui sont devenus nocturnes, hein, je pense, du fait de la crainte de l'homme, ont forcément développé des sens adaptés à cette vie nocturne. Donc l'ouïe et la vue. Et l'odorat, je pense, sont des sens. Mais encore une fois, par rapport à l'homme, j'en reviens toujours à ça, pour dire que voilà, le lynx n'est pas comme les autres. Moi, j'ai des témoignages d'observation. Le lynx est venu me voir parce qu'il m'avait senti. Hein, on a remarqué dans les traces dans la neige que le lynx avait détourné son itinéraire initial pour venir me voir. Et la seule chose qu'il a pu percevoir, c'était mon odeur, et effectivement, le vent, la bise de ce jour-là, en témoignait, quoi. Son odeur allait vers lui, et il m'a senti, il est venu voir.
La papatte avec le coussinet, ça aussi c'est extrêmement adapté. D'abord, c'est assez large. Hein,
c'est large. Un lynx, quand on voit un lynx de tout près, quand on le regarde marcher, c'est des véritables raquettes qu'il a à la place des pattes, qui lui permettent justement de ne pas trop s'enfoncer dans la neige, ce qui est un énorme atout. Contrairement aux chevreuils, qui eux ont des pattes très pointues, très fines.
Et qui sautent, ils se retrouvent avec un mètre de neige au garrot.
Ils ne peuvent plus bouger. Ah oui, les années où il y a des grosses tombées de neige, ouais. Jusqu'à un mètre parfois, ben là c'est clair que pour le lynx, c'est un jeu d'enfant que d'attraper un chevreuil.
Et le chat forestier Didier ?
Présent ici, alors il cohabite, mais c'est clair que le chat forestier est une proie potentielle du lynx.
Ce qui veut dire qu'en fait, le boss. Ici, dans cette forêt du Jura, c'est avant tout le lynx.
Ah ben c'est clair, oui, c'est le prédateur.
C'est pas le renard, c'est pas...
Ah non, non. Ah ben le renard est aussi une proie du lynx.
Ouais.
Donc ça, c'est clair. Ben, c'est quand même un animal qui fait entre 15 et 20 kilos, qui est gros, je compare souvent à la hauteur d'une table, en gros 80 cm au garrot. C'est notre panthère, hein. Il y a la panthère des neiges de Vincent Munier, et il y a le lynx du massif du Jura.
Voilà, c'est pas mal, ça.
Alors je vous demande la permission de nous laisser nous installer tranquillement pour cet affût, et puis donc on y retourne avec le lynx.
J'emprunte mes nuits à mon sommeil. Je veille, j'avise de mon île solitaire. Combien de nuits faudra-t-il pour retrouver mes mots? Je rêve à toi, ici, depuis mon île aux oiseaux. Place vide n'en finit pas de consumer ma peau. Je ne sais pas pourquoi l'exil, si j'y viens naître ou bien mourir. Finis pas de consumer ma peau. Amour, le temps me berce, que ta rive semble loin. J'ai quitté l'île au matin clair, j'ai regardé partir le train.
Une chanson rigolote qui s'appelle Avril Exil, qui était signée Loni.
CO2, mon amour.
Oh, c'est pas vrai. Oh.
Jérôme, tu partais sans me dire au revoir.
J'allais partir. Mais là, ça change tout. T'avais l'état de la voiture.
Oh, merde.
Ça,
c'est marrant. Oui. On dirait les mêmes rayures que t'as sur ton crâne, Jessie.
Des branches piquantes, hein. Tu le savais qu'il y a une bête. C'est comme les dents de la mer. Tu voulais pas paniquer la clientèle ordure.
Non, mais c'est une évidence. C'est des traces de puma ou de cougar.
Ou de loup. Il les aurait introduits en Europe.
J'ai été griffé par un loup.
Mais arrêtez de délirer, c'est un gros chat qui a été attiré par les poubelles et puis c'est tout.
Denis Chessou, sur France Inter.
Bah oui, nous aussi c'est un très gros chat. Donc un homme dans son élément, Didier Pépin, donc le froid, le blanc d'hiver, les verts du printemps. Et alors là, je mesure la chance d'être entré dans le royaume secret, dans un des derniers refuges du félin. Franchir donc le rideau des secrets, on poursuit la balade avec Didier dans le refuge d'un prince.
Voilà, on arrive au lieu béni, là. Des lieux qui laissent des souvenirs à vie, quoi. En avril, l'année dernière, j'avais dit, allez, je prends mon petit filet d'affût, là, et puis mon appareil photo, et je viens me poser là, au bord. Venez, on va s'approcher, vous allez voir.
Il est gentil, là, mais bon.
Attendez, fait, moi, je regarde.
C'est,
oui, c'est exactement.
C'est limite dangereux.
Mais oui, bon, c'est ça.
Donc là, j'étais.
C'est totalement casse-gueule.
Je me suis mis là, tu vois, là où il y a cette branche-là. Donc vraiment au bord du précipice. Voilà, donc je me suis installé là en milieu de matinée. Et puis je me suis dit, bon, j'ai rien à faire dans la journée, donc de toute façon j'attends le temps qu'il faudra. Mais s'il faut attendre jusqu'à soir, j'attends jusqu'à soir. Voilà. Bon. Et puis, je sais pas, ça faisait peut-être 2 heures que j'étais là, et j'étais sous mon filet, ne pouvant regarder que dans une direction, c'est-à-dire la direction de mon arbre sec là. Et puis quand même sous le filet, je détourne la tête machinalement quand même pour regarder un petit peu autour de moi. Et là, dans cette travée là, tu vois, cette belle travée bien dégagée là. Qu'est-ce que je vois arriver ? Eh bien, notre lynx, quoi. Notre beau félin magnifique. Alors, bon, je suis quasi convaincu qu'en s'approchant, il ne l'avait pas eu. Donc, il approche, et il vient là. Moi, je suis là.
D'accord.
Et lui, il vient là, c'est-à-dire
oui,
à 3 mètres. Voilà, 3 mètres. Mmh. Il vient à 3 mètres, et là, il se met en position un peu tendue, tu sais, les deux pattes avant bien tendues.
Il vous prend en photo ?
Et puis, il regarde. Non, mais il regarde. Oui. Non, il ne me regarde pas. Moi, je suis sous mon filet, je suis tétanisé sous mon filet, je bouge pas. Et lui, il regarde en bas, il regarde s'il y a par hasard un chamois, un truc. Hein. Au moment où il se retourne pour reprendre sa route et longer cette belle crête là sur laquelle on est, et là, bref, à ma grande joie, il s'est arrêté juste sur la petite crête qui est derrière nous là, juste pour me regarder un petit coup et juste pour me laisser, voilà, salut, puis me laisser le temps de faire quand même une image, qui est le souvenir de cette rencontre. Quoi. Voilà.
Bon, il va se reproduire comme tous les mammifères, là, mais ça va être quoi la période ? Est-ce que c'est un bon papa ? Comment ça se passe ?
En fait, ce sont des animaux solitaires, sauf que, bon, évidemment, il y a des exceptions, parce que si l'animal solitaire ne peut pas se reproduire, évidemment.
Donc on sent bien que ça va pas être un très très bon père, quoi.
Non, voilà, c'est clair que non. Au contraire, autant la mère va être une très bonne mère, le père, bon... Donc, le rut du lynx, c'est en ce moment. Voilà, c'est février-mars, c'est les 2 mois de l'année où les mâles ne savent plus trop comment ils s'appellent. Ils ne mangent plus. Hein. Et du coup, ce qui se passe à cette époque de l'année, c'est que les lynx, en fait, occupent chacun un territoire. Hein. Mâles comme femelles ont chacun un territoire, 100 km carrés. Bon. Sauf que les territoires de femelles ne se chevauchent pas. Les territoires de mâles ne se chevauchent pas, mais les territoires de mâles chevauchent les territoires de femelles. Et ce qui fait qu'un lynx, mâle, eh bien, va pouvoir passer de territoire en territoire, de femelle, va pouvoir aller féconder plusieurs femelles. Oui. En général, eh bien, ils vont rester 2 jours, 3 jours, grand maximum, ensemble, à faire leurs petites affaires. Oui. La femelle va mettre bas 2 mois plus tard.
2, 3, 4
Alors, en moyenne 2. Par contre, dès que les jeunes sont nés, la femelle va rester avec ses jeunes pendant 1 an. C'est-à-dire qu'elle va attendre le rut de l'année suivante pour se séparer de ses jeunes.
Donc ils auront intérêt à se débrouiller pendant 1 an et après c'est fini.
Pendant 1 an, il faut qu'ils apprennent à chasser, etc. Mais après, alors ce qui se passe, en général, au moment du rut, elle s'en sépare. Ça veut dire qu'en ce moment, et peut-être ce soir, on peut très bien voir un petit jeuneau que la mère a laissé, qui erre comme ça. Moi, ça m'est déjà arrivé, hein, tomber sur un jeune lynx. Et puis du coup, la femelle fait ses affaires avec son mâle, et il arrive que la femelle reprenne les jeunes. Elle les rappelle un coup, elle les reprend avec elle, jusqu'à ce qu'elle trouve une tanière, où là, elle va mettre bas. Et là, alors là, par contre, c'est terminé. Là, elle se sépare de ses jeunes. Alors, c'est le moment critique pour les jeunes. Parce que du coup, ils sont livrés à eux-mêmes. Et c'est pas forcément évident pour eux. Parce que pendant toutes ces périodes de vie commune avec la mère, c'est la mère qui chasse. C'est la mère qui chasse, c'est la mère qui tue. Et eux viennent manger. Donc, il va falloir qu'ils se débrouillent.
Donc, le CAP de lynx, il n'est pas donné à tout le monde, quoi.
Non. Ça, c'est clair qu'il y a toute une éducation, toute une formation. Mais bon, je crois que c'est des bonnes mères. Hein.
Ah, petite pause.
De toute façon, c'est toujours là le grand problème de l'affût, c'est où se poser. Il y a un seul moment où on sait où il faut se poser, c'est après l'affût. Et quand l'affût est terminé, qu'on sait où l'animal est passé, que là on se dit, oh, si on avait été là, ça aurait été magique. Voilà, donc là on arrive sur ce promontoire en plein milieu de la forêt comme ça, c'est forcément attractif. Voilà, tout est dépendant, mais si c'est un rôdeur auquel on a affaire, je mets ma main au feu, qu'il viendra renifler, pisser, venir faire un tour sur ce mamelon, voir si d'autres lynx sont venus. Il va forcément venir. Donc stratégiquement, c'est là qu'il faut se mettre. Quoi. Enfin, pas loin. C'est à proximité de ce mamelon-là qu'il faut qu'on se mette.
Alors notre lynx, pour marquer son territoire, lui, ça ne va pas forcément être des crottes, mais il va vaporiser, ça va être...
Alors c'est l'urine. Et d'ailleurs, c'est un truc assez extraordinaire parce qu'on se demande comment il fait. Il pisse 4 gouttes. Il refait 10 mètres, il repisse 4 gouttes. Il va, il sent, il se frotte, il pisse. Et ils font tout ça. Ça veut dire que c'est un moyen pour eux de communiquer, de dire là c'est chez moi, ou sentir, voir s'il arrive sur le territoire d'un autre. Donc c'est de la communication féline.
Tu veux un bâton ?
Ouais.
Je te donne ton bâton.
Je vais quand même prendre le bâton. Je dérape un peu là, sinon.
Les crottes de chamois ?
Oui, les petites billes. On continue.
Tiens, le pic noir.
Allez, vas-y mon pic. Roule. À la recherche du meilleur spot pour observer le lynx, s'il a la gentillesse de... Bon, on se pose où ?
Moi, je crois qu'on est bien.
Eh bien ?
Il faut juste qu'on essaie de ne pas avoir tout à fait les deux le même axe d'observation, qu'on ait quand même un œil sur ce qui se passe derrière nous. Et ce que souvent on recherche, c'est des belles petites racines qui fassent un beau...
Un petit fauteuil.
Un beau petit dossier, un beau fauteuil. Celle-là, elle est pas mal.
Ouais, top.
Et puis moi, ce que je vais faire... Je vais peut-être me mettre pas très loin de toi, je vais peut-être me mettre là,
d'accord.
Tu vois, mais je vais me mettre comme ça, moi. Comme ça, je peux regarder et là-bas, et en même temps, je regarde là.
Bon, là, on se cale. Dans le duvet, et dessous, il y a quand même une couche pour être isolé, voilà. Et on comprend bien qu'avec la température, c'est pas mal d'être dans le duvet, là.
Indispensable. Si on veut profiter de l'affût, et si on caille, eh ben, rapidement, ça devient une galère. Donc souvent, on recule devant rien. Hein. Pour être bien, on est toujours bien équipé. Quoi. Et c'est important. Et du coup, quand on est bien, eh ben, parfois on s'endort même. Le réveil en plein bois comme ça, alors que tu as coupé complètement, c'est juste un petit bonheur extra, ça. Puis l'affût, c'est quand même un des rares endroits où on est obligé de rien faire. Quoi. Obligé de rien faire, et il est même permis de penser à rien. Puis ça coûte rien.
En fait, on s'est posé déjà depuis plus d'une heure. Et en fait, vous appartenez gentiment au paysage. Vous prenez un peu racine vous-même. Alors, on a vu passer des oiseaux, évidemment. On a pu voir passer aussi un renard. Et puis, en revanche, notre lynx, on l'a pas encore vu. Hein. Mais bon. En tout cas, c'est son lieu de passage. Donc, sur cette crête... Ah, écoutez là. C'est pas sûr qu'on le voit, mais ce que vous entendez, c'est son cri rauque. Comme c'est la période du rut, le seul moyen qu'il a pour appeler une femelle, bah, c'est celui-là. Il y a aussi les odeurs, mais... Donc il est pas loin. Alors, même si on voit pas la bête, c'est pas grave. On est déjà récompensé. Là, on a en fait un marquage de territoire, de couple de grands-ducs. Bon, on a levé le camp, là, cher Didier. Alors quand même, on aurait eu les traces, et puis on aurait eu, je vais pas dire le chant, comme on dit, Ifeul, c'est ça ?
Ifeul, ouais.
Voilà, on l'aura quand même entendu donc, dans cette période de rut. Et alors là, on est sorti de la forêt, mais quand même, elle est à 150 mètres à peu près. Et là, c'est un lieu idéal pour lui aussi.
Oui, ce sont ces prairies, ces enclaves forestières où nous, on sait qu'on vient faire des observations au mois d'avril. Au mois d'avril, pourquoi ? Parce que la neige se retire, l'herbe commence à pousser, les chevreuils... viennent dans ces pâtures pour se nourrir. Et les lynx le savent et du coup, voilà, fréquentent assez régulièrement ce genre d'enclave. Donc c'est un bon... Ouais, c'est un bel endroit, ça.
Donc la nuit est tombée, il pourrait pas passer, là ? Ça fait trop de bruit, hein ?
Si. Oh, bah, ça, c'est pas son problème. C'est pas un problème pour lui.
Bon, d'accord. Bon, on te salue quand même. Hein, tu nous as fait déjà le don de ton cri, de ton feulement. Et puis de tes traces. Bah, c'est déjà pas mal pour rêver, ça.
Hein, oui. Oh oui, il y a de quoi rêver. Oui.
Ouais. À bientôt.
À bientôt, merci.
On peut poursuivre ce rêve avec La forêt du lynx, signé Didier Pépin aux éditions de la Salamandre. On va remercier quand même le jeune Lincé, qui était un des argonautes et qui avait ce don de voir à travers les murs, d'où effectivement l'expression de l'œil du lynx. Et puis qui a quand même donné aussi donc le nom, donc paraît-il, à ce fameux lynx. L'actualité quand même, on va saluer le travail de Jura Nature Environnement, du pôle Grand Prédateur avec Patrice Redley, parce qu'il y a un plan national lynx, et là on essaye de secouer quand même un petit peu l'État, qui permettrait d'accélérer les choses, parce qu'il n'y a pas encore tellement longtemps, il y a encore eu un lynx qui s'est fait flinguer joyeusement, si j'ose dire. Voilà, donc vive cet animal, et sûrement à très bientôt pour un autre animal. Merci à Rémi Sissiaga, à Guillaume Roux qui a mixé ce reportage, à Camille Blanès, à Xavier Pessugia qui a réalisé l'émission, Anne Gouzon qui nourrit les sites. Le podcast, vous en avez l'habitude, aussi bien pour La Tulu Mon Petit Loup que CO de Mon Amour. Abonnez-vous, le Twitter Denis Chessou. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de dimanche, avec ou sans lynx.